Proverbe, chapitre 4, verset 21. Garde mes paroles dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Amen. Oh, c'est passé. Ah, toi, t'as entendu, merci. La santé pour tout le corps. Ce que je vous demande quand je vous invite à dire amen, ce n'est pas à dire oh, oui, on te suit. Mais combien je voudrais ce matin susciter la foi dans la parole de Dieu dans vos cœurs. Car il y a des promesses que Dieu lui-même a écrites. Il a promis des promesses de bénédiction, de rafraîchissement pour les os. Tous ceux qui ont des rhumatismes, je veux vous dire que ce matin, il y a une promesse de soulagement pour vos muscles et pour vos os au nom de Jésus. Mais ce n'est pas de l'autoproclamation, ce n'est pas là le système coué, ça va aller bien, ça va aller bien. Mais au nom de Jésus, Dieu a dit une chose et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, oui ou non? Alors, il y a des bonnes années que l'on peut commencer par la foi et uniquement dans la foi. Toute parole est puissance de vie pour quiconque croit. C'est bien d'aller à l'église, mais il faut la foi. C'est bien de lire la parole, mais il faut l'accepter avec foi. Et il y a pour nous en Jésus-Christ, parce que j'avais relevé ce Colossiens chapitre 2 verset 10, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors le monde se souhaite des vœux. Bonne santé, hein. Pourtant, la santé a été relevée par la prière. Amen. Qui, cette année, juste cette année, peut rendre témoignage qu'il a vu la main de Dieu sur sa santé? Juste cette année. Là, 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 là. On ne dit pas que voilà, je suis allé chez le médecin, j'ai pris un Doliprane, ça allait mieux. Ça, c'est bien, merci. Mais et qui peut rendre témoignage qu'il a vu la main de Dieu sur cette année et celle d'avant? Et si on remonte comme ça, chacun d'entre nous, je suis presque certain, peut dire j'ai eu un jour la main de Dieu qui s'est posée par rapport à mon corps. J'avais pris ce traitement, il n'avait pas marché, le Seigneur a mis sa main. Je suis allé chez le médecin, il a pris la radio, hop, il a mis une grosse trace, puis je suis après, il n'y avait plus rien, et ainsi de suite. Je suis venu à l'église, j'étais fatigué, courbé, j'avais mal, on a prié pour moi et je suis reparti en pleine santé. Et je pourrais vous laisser la place à chacun et pourrais chacun rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait par sa main dans vos corps. Oui, il y a une bénédiction. Il y a trois raisons pour lesquelles nous pouvons, avec force, avec foi, avec autorité, avec vérité, souhaiter de bons voeux à quelqu'un au nom de Jésus. La première raison, c'est que même scientifiquement, il est reconnu que c'est très bon de lire. Il est très bon pour la santé de chanter. Il est très bon, scientifiquement, vous le verrez vous-même si vous faites vos de prier. Même les scientifiques ont vu que lorsque l'homme et la femme prient, il y a là des trucs dans le cerveau qui se passent et c'est bon pour la santé. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que la vie d'un chrétien si ce n'est pas que de lire la parole de Dieu, que de chanter régulièrement, se s'entraîner par les chants et de prier? Donc un chrétien qui vit sa vie normale, pas 5 minutes, mais qui vit son quotidien, il sera forcément en meilleure santé que le reste de la génération. C'est scientifique, là, il n'y a même pas de question de religion ou de croyance ou de pas croyance. La deuxième bonne raison, c'est que les conseils de la parole de Dieu sont bons pour la santé.
Amen.
Mais oui. Moi, ça me fait mal au cœur. Enfin, je ne le dis pas, donc j'ai pas mal au cœur. Mais dire « Ah, bonne santé à quelqu'un qui fume !» On dit quoi, là? C'est pour ça que je vous disais, moi, dans le monde, j'ai du mal à souhaiter bonne année aux gens, parce que on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais quand on lit les conseils de la parole de Dieu, il y a des bons conseils pour notre santé.
Oh, Seigneur.
Quelqu'un qui vit dans la sainteté aura un corps beaucoup plus en meilleure santé que celui qui vit dans la débauche. D'ailleurs, c'est écrit en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Le corps n'est pas pour la débauche, mais il est pour le Seigneur.
Amen.
Et le Seigneur est pour le corps. Il n'y a rien de mystique. Croire en Dieu, ce n'est pas le dépouillement de nous-mêmes. On vit là dans le déni de nous-mêmes. Non, le corps, nous devons le présenter, l'offrir au Seigneur. Il est le temple du Saint-Esprit. Nous devons en prendre soin. Si je vous prête ma voiture et que vous faites des bignes, que vous la rayez, que vous la guérez n'importe comment, vous allez être honteux de me rendre une voiture dans cet état. Le corps que nous avons, il a été prêté par le Seigneur. Il n'est pas pour la débauche. Il n'est pas pour la honte, il n'est pas pour la destruction. Nous devons en prendre soin. Et là, il y a le pacte de Dieu et le Seigneur et pour le corps. Si nous sommes raisonnables et que nous consacrons notre corps au Seigneur, alors le Seigneur est également pour notre corps. Pardonnez-moi, j'ouvre la parenthèse, vous pouvez la refermer. Mais même dans l'alimentation, nous sommes une société de consommation. Il faut manger, mais non. Les conseils de la parole de Dieu nous invitent au contraire à la modération, à éviter les excès. Soyons sages, soyons raisonnés et soyons conformes à l'Écriture et suivons les conseils de la parole de Dieu. La troisième raison pour laquelle nous pouvons avec assurance souhaiter une bonne année au nom de Jésus-Christ, c'est le côté que nous aimons le plus et dont nous nous réjouissons parce que c'est une faveur que Dieu nous fait. Mais par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Amen. Il y a cette action surnaturelle, cette action qui n'est pas de l'autoproclamation ou de l'autopersuasion, mais c'est vrai que le Seigneur fait des miracles. Amen. Il est bon de voir la main de Dieu se poser comme ça. Le diagnostic des hommes est là, qu'il est négatif. Ne perdons pas courage. Seigneur, je compte sur ta main. Amen. Il y a de belles expériences à vivre. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour nous rappeler aussi une chose. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas appelés à rechercher la guérison, nous sommes appelés à rechercher le Seigneur de la guérison. Amen.
Amen.
Et ce n'est pas la même chose. Ne soyons pas là à courir après les signes. Parce que le diable aussi fait des signes mensongers. Faisons attention dans nos aspirations spirituelles, à ne pas chercher la bénédiction, mais celui qui bénit.
Amen.
Si Dieu fait des guérisons, il le fait par compassion, par amour, parce qu'il ne veut pas laisser le malheureux dans sa souffrance. Mais il y a une autre raison spirituelle à cela. Rappelez-vous, vous pourrez lire cette histoire en Marc chapitre 2. On amène un homme qui est là, il est paralysé. Et c'est un jour de sabbat. Et les gens disent, est-ce que Jésus va guérir cet homme-là? Un jour de sabbat, normalement on ne travaille pas le jour du sabbat. Et Jésus va dire une phrase qui est révélatrice de la vocation des guérisons. Parce que la première chose que Jésus va dire à cet homme-là, il ne va pas dire tu es guéri. Il va dire tes péchés sont pardonnés. Mais bien aimé, la première chose que le Seigneur veut guérir en nous, c'est de notre péché. La première chose que le Seigneur veut retirer de notre vie, ce n'est pas seulement le mal physique, mais c'est le mal spirituel, c'est le péché. Et les gens sont là, ils disent, mais c'est un blasphémateur, personne ne peut pardonner les péchés, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Alors Jésus va dire une chose tout simple, il dit, ah, vous dites que là, c'est pas bien que moi je dise que ces péchés sont pardonnés? Alors on va faire un. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile de dire à cet homme? Tes péchés sont pardonnés ou de dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et écoutez cette phrase extraordinaire de Jésus. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Jésus, a sur la terre maintenant le pouvoir de pardonner les péchés, alors je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme se mit à marcher. Amen. Le but des guérisons physiques est là pour signifier que Dieu s'occupe de notre âme. Recherchons le Dieu de la bénédiction qui veut avant tout soigner notre âme, nous délivrer de nos péchés. Parce que le plus grand des mâles, il est dans le cœur. Nous pouvons compter sur sa grâce également pour nous guérir, parce que ça fait partie de ses promesses. Mais comprenons que la logique de Dieu, au-delà de sa compassion, est de signifier que ce qu'il peut faire dans un corps, et nous avons tellement besoin de voir les choses, nous les êtres humains, n'est-ce pas ? Que Dieu va aussi faire un miracle dans les corps pour signifier que si moi je suis capable de faire quelque chose dans ce que vous voyez, je suis aussi capable de guérir dans le monde invisible, dans les péchés, dans ce lieu où aucun homme ne peut voir si ses péchés ou pas sont pardonnés. Mais si je le fais dans le corps, sachez que je le fais aussi dans les lieux invisibles. Amen. Alors que nous soyons dans cette foi, et si effectivement cette année peut être négative sur le plan de la santé, car il arrivera probablement, peut-être au moins une personne ici, mais j'espère pas. Mais peut-être que quelqu'un sera atteint dans son corps cette année. Peut-être. Qu'il n'y ait pas de culpabilité, de honte. De grands hommes de Dieu ont été atteints par la maladie. Élisée, l'homme qui avait reçu une double portion de l'esprit d'Élie, Déjà, Élie, c'est pas mal. Alors, Élisée, bon, je vous laisse découvrir ces choses-là. Il est dit de cet homme de Dieu, dont on relève deux fois plus de miracles que dans la vie d'Élie, qu'il est mort de la maladie dont il était atteint. Comment est-ce possible? Un tel homme. Paul, que l'on connaît pour ses miracles, ses prodiges, dira: j'ai laissé tel homme profine, malade, à Millet. Mais t'as pas prié pour lui? Bah, bien sûr qu'il a prié. Mais il est resté malade. Il faut de temps en temps plus de foi pour vivre dans la maladie que pour la guérison.
Amen.
Et il y a des fois où Dieu permet des chemins difficiles, tortueux, d'interrogation. Mais jamais le Seigneur ne le fait en vain. Si cette année, la maladie nous touche, ne perdons pas la foi. Acceptons de perdre notre santé, mais ne renonçons pas à la foi. Amen. Et c'est pour ça que les bons vœux ne doivent pas se faire seulement le 31 et puis les quelques jours du mois de janvier. Mais comme on l'a dit, c'est toute l'année que nous devons prier. Jacques chapitre 5 verset 16: priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est pour ça que je renouvelle mon invitation, que j'espère que tous ceux qui ont souhaité de bons vœux et des bons vœux de santé seront également là aux réunions de prière pour intercéder en faveur des bien-aimés. Parce que c'est là, ce n'est pas le vœu qui a de l'efficacité, mais c'est la prière fervente du juste. Amen. Alors, bonne année 2016 et que la santé soit au milieu de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Le deuxième vœu que nous pouvons, et qui est surtout répandu dans le monde, c'est le vœu de la prospérité. Vous avez reçu ça, un petit texto, prospérité, non? Oh, moi j'en ai reçu, moi, même un chrétien m'a envoyé un. Mon vœu de prospérité. Alors c'est vrai que nous sommes un peu timides sur le thème de la prospérité. Pourtant c'est bien quand même ce qu'a formulé Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. On est d'accord? Ah oui, mais là c'est spirituel. Bah, il va le dire après. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc effectivement, il va parler de la prospérité de l'âme. Et là, nous avons raison de dire que là, il y a cette prospérité spirituelle. Et nous devons, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, premièrement chercher le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons rechercher cette prospérité spirituelle. Qu'est-ce que c'est la prospérité spirituelle? Mais c'est le fruit de l'esprit.
Alléluia.
C'est le caractère de Dieu. Que Dieu nous encourage également à aspirer aux dons spirituels afin que nous soyons là, une église dans laquelle il ne manque aucun don, que ce Dieu nous fasse grâce. Mais si chacun vient à vide, si chacun vient spirituellement à vide, si chacun ne se contente que de quelques petites miettes de prière, et puis là, le dimanche matin, c'est là qu'on va ouvrir la Bible, on est un peu sec. Alors bien sûr, nous serons secs, nous serons pauvres spirituellement. Matthieu chapitre 6 verset 19, Jésus l'a dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent pas, car là où est ton cœur, là aussi sera ton cœur. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et oui, parce que notre cœur est attiré vers là où nous trouvons de la valeur, de l'intérêt. Si nous trouvons plus d'intérêt à certaines émissions télé, ben notre cœur sera dans l'émission télé. Si nous trouvons plus de plaisir à la table, alors notre cœur sera dans les aliments de notre assiette. Mais vous allez vous apercevoir que spirituellement, on va s'appauvrir. Mais si nous disons: Seigneur, moi ce sont les choses d'en haut que je veux. C'est cette puissance, c'est cette autorité, c'est cette joie, c'est cette allégresse, c'est ce dynamisme, c'est cet élan. Seigneur, j'ai envie que mon cœur soit pétri de tes chants, de tes cantiques, j'ai envie que de parler en langue, j'ai envie qu'il y ait là cette force qui me stimule, qui m'encourage. Seigneur, je voudrais tellement voir les âmes être sauvées. Seigneur, je voudrais venir à l'église et être inspiré, Seigneur. Non seulement je vais être inspiré, mais je vais être un canal de bénédiction pour les autres. Je veux que quand j'ouvre ma bouche, il y ait une onction, ayez faim, ayez soif de ça, mes bien-aimés. Soyez riches de ça. Nous sommes le reflet de ce que nous recherchons, mes bien-aimés. Là où est notre trésor, là sera notre cœur. Alors oui, prospérons. Prospérons et faisons prospérer l'état de notre âme. Mais quand même, je crois qu'il est intéressant et important d'aborder le thème de la prospérité. Non seulement parce qu'elle est d'ordre biblique, mais parce que, reconnaissons-le, pour ceux qui connaissent quelques milieux, il y a aussi quelques mauvaises prédications, mauvais enseignements sur le thème de la prospérité. C'est un vœu qui est peu fréquent au milieu de nous, parce que nous sommes plutôt timorés sur la question de l'argent. Ah, mais c'est pas bien, faut pas parler d'argent. L'argent, c'est pas très bien. Pourtant, il y a effectivement des gens qui souhaiteraient prêcher ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Il est très simple, l'évangile de la prospérité, il part sur ce principe qui dit que plus vous donnez au Seigneur, plus il vous rendra. Mais oui, il rendra au centuple, n'est-ce pas ? C'est écrit. Alors si c'est écrit, alors en ce cas-là, on doit tout dire. Mais à part qu'il n'y a pas que ça qui est écrit. D'autres vont dire, ah oui, mais non, c'est écrit, mais voyez, il y a d'autres passages où Paul va dire, par exemple, qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Que la piété avec le contentement, c'est suffisant. Alors vous voyez, alors il y a une sorte de tiraillement entre ceux qui vont prêcher, mais si, regarde, c'est un Dieu de prospérité, il faut réclamer. Et puis ceux qui disent, mais non, le Seigneur, au contraire, t'as vu tous les avertissements qu'il donne sur l'argent, faut être prudent, etc. Est-ce que Dieu a changé ?
Non.
Est-ce que c'est le même Dieu qui a écrit toute la Bible ?
Oui.
Alors on va essayer de concilier l'enseignement biblique et vous allez vous apercevoir que quand on lit les évangiles, quand on lit la parole de Dieu, tout devient cohérent.
Amen.
Allons par étapes. La prospérité matérielle est une notion très importante, surtout dans l'ancienne alliance. Vous avez quelques références, j'en ai mis que deux, mais il y en a bien d'autres. Là, en Genèse chapitre 39, verset 2, c'est l'exemple de Joseph. Il est écrit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna ». C'est clair ? Le Seigneur était avec lui et il prospérait. Et on a plein d'autres. Ésaïe, chapitre 45, verset 7. C'est Dieu qui dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et pour ceux qui sont habitués à la lecture biblique, repensez à Abraham, à Isaac, à Job, à David, à Salomon. Vous les mettez dans quelle catégorie ? Des riches ou des pauvres, ces gens-là ? Et chacun d'eux rend témoignage que c'est l'Éternel qui leur a donné cette prospérité.
Amen.
L'or et l'argent m'appartiennent. Qui a dit ça ? C'est Dieu. Et il y a véritablement de nombreux autres passages où Dieu dit qu'il est celui qui donne l'abondance, la bénédiction. Donc, ne disons pas que l'abondance, la prospérité n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu d'abondance.
Amen.
Et ça, c'est le premier point. Alors, c'est là qu'il faut comprendre également que, avec cet enseignement qui est biblique, avec ces témoignages d'hommes de foi, il y avait une mauvaise mentalité qui avait commencé à grandir parmi le peuple juif. Cette mauvaise mentalité pourrait se traduire par ces mots. Si tu es riche, c'est que la bénédiction de Dieu est avec toi, donc tu as l'approbation de Dieu avec toi. Comprenez déjà la petite nuance ? Si tu es riche, c'est que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, c'est que tu es approuvé de Dieu. Du coup, si tu es pauvre, c'est louche. En France, c'est un peu l'inverse. Hein. Si tu es riche, c'est louche. Bon, on revient au même texte biblique. Mais cette mentalité de la bénédiction, l'enrichissement, c'est forcément un signe de la bénédiction de Dieu. Nous le retrouvons au travers de la maladie. Rappelez-vous dans Jean chapitre 9. Ils sont devant un homme qui est aveugle, né. Quelle est la question des disciples ? Bah, lui, il est aveugle, né. C'est lui ou c'est ses parents qui ont péché ? Première logique, vous voyez ? C'est forcément... Si le gars, il est pauvre, s'il est malade en plus, bah, alors lui, là, pff, qu'est-ce que t'as fait ? Et Jésus va dire, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Mais il y avait cette mentalité. Et c'est pour ça que Jésus, quand il prend la parole, parle souvent du rapport à l'argent. Lisez les évangiles. Jésus parle souvent de l'argent. Il ne dénonce ni le pauvre, ni le riche. Il ne dit pas, toi t'es bon ou toi t'es mauvais. Mais il va nous parler de notre rapport par rapport à l'argent. Il dénonce l'avarice. Il va dénoncer la convoitise. Il va dénoncer l'attachement, justement, que ces hommes avaient, non plus du Dieu qui donne, mais de la richesse. Dieu va dénoncer l'amour de l'argent. Et c'est une mise en garde que nous avons dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et il est là le gros problème. Cet amour de l'argent qui fait qu'on ne s'attache plus à Dieu, mais on s'attache à sa bénédiction. Et c'est ainsi que la mentalité grandissait dans le peuple du peuple juif, où ils cherchaient davantage la richesse. Parce que leur logique était, je vais m'enrichir, et donc si je suis riche, c'est que Dieu m'approuve. Mais qu'ils ne recherchaient plus le sujet de la bénédiction. Ils cherchaient la bénédiction en tant que telle. Et Paul aura reprendra cette même logique par rapport aux hommes. Il dira, vous adorez la créature et pas le créateur. Et c'est ça qui est devenu malsain dans le rapport que l'homme avait par rapport à la richesse. Il cherchait la richesse, et s'ils étaient riches, alors ils disaient, Dieu est d'accord avec moi comme je suis riche. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Nous ne devons pas rechercher la bénédiction, mais nous devons rechercher celui qui bénit. Amen. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus, par-dessus. Donc il y a toujours cette notion-là. Dieu veut, et je le dis, je le répète, Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Il n'y a pas de témoignage plus spirituel parce qu'on serait plus pauvre. Le problème, ce n'est pas la pauvreté ou la richesse. Le problème, c'est l'attachement que l'on a par rapport à ces choses-là. Alors, est-ce que nous pouvons, en tant que chrétiens, faire comme le monde et nous souhaiter prospérité? On pourrait dire oui. Mais, lorsque le monde se souhaite prospérité, qu'est-ce qu'il dit en réalité? J'espère que tu auras plein de sous et que tu pourras faire tout ce que tu veux avec. C'est ça le sous-entendu? J'espère que tu vas gagner au loto et qu'avec tout ça, tu feras tout ce que toi t'as envie. C'est ça. C'est ça le vœu de prospérité selon le monde. Alors que lorsque Dieu nous parle de prospérité, ce n'est jamais pour une utilisation égoïste. Lorsque Dieu a béni des hommes, comme nous avons cité tout à l'heure, relisez-le. Ces hommes-là ne vivaient pas tout seuls. Ces hommes-là étaient prospères, mais c'était toute la maison qui dépendait de cette richesse-là. Abraham était béni, mais il avait une multitude de serviteurs et de servantes qui dépendaient de la richesse d'Abraham. Et relisez tous ces hommes. Parce qu'il y a... Et c'est juste, c'est Jésus qui va le dire en Matthieu chapitre 26, verset 11. Vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Et oui, il y avait des pauvres. Alors comment Dieu peut dire que si on le suit, on sera dans l'abondance et que de l'autre côté... Bah oui, c'est vrai, il y a toujours eu des pauvres. Même dans l'église primitive, ça c'est une vraie église, ça, on est d'accord. Là il y avait le réveil, il y avait le feu, là il y avait vraiment l'autorité incroyable. Donc là, on pourrait se dire qu'à la première église, tout le monde était super riche, selon la logique de la prospérité. Ben non. C'était tellement faux qu'il y a même des églises qui ont dû faire des collectes pour soutenir d'autres chrétiens qui étaient dans la nécessité. Et là, on a la parfaite illustration de la prospérité selon Dieu.
Amen.
C'est que Dieu peut permettre et accorde la prospérité à plusieurs, à quelques-uns, mais afin que cette prospérité puisse être partagée,
amen,
afin que tout le peuple de Dieu bénéficie de cette libéralité et de cette générosité spirituelle.
Amen.
Et ça, on le voit déjà par des exemples dans l'Ancien Testament. Exode, chapitre 16, verset 18, c'est le passage de la manne. Le peuple est dans le désert. Et Dieu dit, je vais vous envoyer le pain qui descend du ciel et que chacun en ramasse pour lui-même. Et c'est ce que les gens faisaient. Et au verset 18, il est écrit, on mesurait ensuite. C'est-à-dire que les gens prenaient, et après leur collecte, après que les gens aient ramassé ce qu'ils pouvaient, on les mesurait. Alors on mesurait un homère, c'était une valeur de combien? Quelqu'un connaît le... J'ai pas eu le temps de mesurer. Une capacité, voilà. Et celui qui avait ramassé n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. C'est-à-dire que celui qui en avait ramassé beaucoup, eh ben son surplus, il le donnait à celui qui en avait ramassé un petit peu moins. Et c'est ce principe-là que l'on retrouve dans Deutéronome chapitre 15 verset 11. Dieu qui pourtant va dire « Je promets la bénédiction si vous me suivez » va dire en Deutéronome chapitre 15 verset 11 « Il y aura toujours des indigents dans le pays. » Ben, c'est pas normal, Dieu. Toi, tu dis que tu vas bénir et tu dis d'un autre côté qu'il y aura toujours des indigents. Oui, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Oui, Dieu donne à certains la richesse. Comme il le dit, et là, c'est là que l'on comprend tous les versets de la parole de Dieu, où Dieu a des promesses de bénédiction. Je te bénirai, je t'enrichirai, l'or et l'argent m'appartiennent, je le donne à qui je veux. Mais quand il dit je le donne à qui je veux, il ne dit pas je le donnerai à chacun. Il le donne à qui il veut. Parce que rappelons-nous quand même que Jésus a considéré l'argent comme un argent, comme parmi les choses injustes de ce monde. Ça fait partie de l'injustice de ce monde. L'argent est une injustice. Pourquoi est-ce que vous avez beaucoup et d'autres moins? Honnêtement, réfléchissez à la chose. Est-ce que vous méritez l'argent que vous avez? Est-ce que vous méritez la pauvreté? Non. Il y a des gens qui travaillent très dur, ils n'arrivent pas à finir la fin de mois, et d'autres qui ont juste atterri dans une bonne famille et ça va bien pour eux. Les richesses sont des richesses injustes. D'ailleurs, il va le dire, avec ces richesses injustes, faites-vous des amis. Donc vous comprenez toute la logique biblique. Les richesses font partie des choses injustes, comme la santé. Qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un va être en bonne santé ou mauvaise santé? Franchement, il y a de l'injustice, parce que le prince de ce monde est celui qui gère ces choses-là. Et Dieu va permettre malgré tout, dans sa souveraineté, parce qu'il est au-dessus de tout, il est au-dessus des stratégies du malin, d'accorder à certains la prospérité. Mais cette prospérité, Dieu va dire aussi, je sais qu'il y aura des pauvres au milieu de nous. Mais je te donne un commandement. Un commandement. Ouvre ta main.
Amen. Amen.
Ce que tu as reçu, c'est pas seulement pour toi. C'est une grande responsabilité. C'est bien, nous pouvons nous souhaiter prospérité, mais reconnaissons que c'est aussi une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Et oui, il m'a fait une expérience comme ça dans ma vie. Un jour, j'ai reçu un bel héritage. Ouais, ça c'est un bon. Et ben, j'étais surpris. Parce que le Seigneur me demandait de faire un don. Avant, j'avais pas de problème, je lui faisais des dons quand on n'a pas grand-chose. C'est un peu difficile, mais on le fait. Et là, ce jour-là, je sentais qu'il fallait que je donne une bonne partie. Et là, j'ai senti un combat spirituel. Là, ça a travaillé mon cœur. Mais c'est beaucoup si je donne tout ça. Comme si j'avais oublié que ce qui me restait, c'était encore beaucoup. Le Seigneur m'a pourchassé. Je suis allé dans deux églises différentes, deux fois c'était le même message. Je dis, oh non! Il n'y avait pas besoin de la prédication, je le savais au fond de moi. Mais le Seigneur a un commandement. C'est bien de nous souhaiter la prospérité. Moi, je souhaite que vous soyez tous super bénis dans votre compte en banque. Mais sachez que ça va être pour chacun d'entre nous une grande responsabilité aussi. Une grande responsabilité. D'ailleurs, cette logique-là, c'est là que l'on comprend ce qui s'est passé dans la première église, en Actes chapitre 4, verset 34. Ouais, c'est marqué. Car il y avait, parmi la première église, l'église primitive, aucun indigent. Ils avaient tous été bénis de Dieu directement? Pas du tout. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils avaient besoin. C'est ça qui s'est passé lorsque l'Église de Jésus-Christ a compris le plan de Dieu. Parce qu'elle a compris que dans le domaine financier, matériel, il fallait faire ce travail de la redistribution. Moi, quand je me suis converti, j'étais un peu anarchico-communiste, alors ça m'a plu. Hein. Mais c'est vrai que c'est le principe. C'est le principe spirituel qui n'a pas été entretenu, justement, parce qu'il a été mal géré, et justement parce que ce n'est pas, en fait, ce système économique qui fonctionne bien. Mais ce serait un autre sujet. Mais Paul va retenir ce principe-là en 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 13. Il s'agit non de vous exposer à la détresse, parce qu'en fait, c'était ça qui s'était passé avec la première église. C'est que les gens, en fait, en tout vendant, bah, ils se retrouvaient eux-mêmes pauvres. Alors, ça n'a pas beaucoup de sens. Il ne s'agit non pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, même si c'est très louable, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement aux autres afin qu'il y ait égalité. Et c'est là même que Paul reprend l'exemple d'Exode. Ainsi, celui qui a ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait point. Chacun ramassait ce qu'il voulait pour sa nourriture. Amen.
Amen.
Alors oui, nous pouvons nous souhaiter prospérité et générosité. Parce que c'est ça la logique de Dieu. Dieu est le Dieu de l'abondance. Vous savez que sur cette terre, la terre produit suffisamment pour nourrir entre 10 et 12 milliards d'individus. Dieu est un Dieu de générosité.
Amen.
Dieu est un Dieu de comment ? 7 ? De quoi 7 ? Mais, effectivement, sur cette terre, nous sommes un peu moins de 8 milliards. On est 7 milliards et quelques. Ça veut dire qu'effectivement, sur cette terre, nous sommes en mesure de pourvoir aux besoins de tous. Et pourtant, chaque année, je relève le chiffre, 800 millions d'hommes, de femmes, d'enfants souffrent de malnutrition. 800 millions. Alors que si on fait le prorata, on est 8 milliards sur la terre, Dieu permet qu'il y ait une production pour 10 milliards. Donc ça veut dire qu'il y aurait encore 2 milliards d'individus qu'on pourrait nourrir. Tiens, on va nourrir les Martiens avec les 2 milliards. Mais en fait, il y a des hommes et des femmes qui souffrent de faim. Est-ce un problème d'abondance ou est-ce un problème de générosité? Est-ce un problème de bien ou est-ce que c'est un problème de répartition? Et dans le peuple de Dieu, nous devons veiller à être vigilants. Parce que le Seigneur de la vie nous a donné ce qu'il convient. Je sais que dans le peuple de Dieu, Dieu a permis à chacun. Mais que nous soyons vigilants. Souhaitons-nous la prospérité. Mais souhaitons-nous également que notre cœur s'élargisse. C'est une grande responsabilité que Dieu nous a donnée. Alors oui, formulons ses vœux. Et nous pouvons effectivement relire et mieux comprendre ce verset de Jean, chapitre 3e épître de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen.
Amen.